Plein Feu, une émission de Catobel, Vincent Delcor.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans Plein Feu. Vous êtes sur UNXF. Plein Feu, c'est une émission produite par Catobel. Chaque semaine, on a le plaisir de s'entretenir longuement avec une personne, une personnalité du monde culturel, économique, politique, social, religieux. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Brigitte Cantino. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancienne professeure de religion, ancienne inspectrice aussi pour les cours de religion, liturgiste. Vous êtes dans le Brabant wallon la seule femme à diriger une unité pastorale. Vous êtes aussi une actrice, actrice de théâtre religieux. Ça veut dire qu'il y a bien des raisons de vous inviter et bien des sujets qu'on va pouvoir aborder avec vous.
Mais avec plaisir.
Et comme vous le savez, dans Plein Feu, on commence toujours par un petit peu faire la connaissance de la personne qui se trouve en face de nous, écouter son histoire, son parcours. Vous êtes né il y a 66 ans à Braine-le-Comte, un lendemain de Noël. Est-ce que c'était un signe de quelque chose, ça ?
En tout cas, ça montrait bien que dès le départ, je laissais la première place au Christ, puisque maman a pu aller à la messe de minuit cette année-là, et je suis née la nuit suivante. Chez nous, c'est vrai que c'était un petit clin d'œil parce que naître le lendemain de Noël, mais ça avait quand même tout son sens. Mmh. Et ça a toujours fait partie du coup de la fête de Noël. Mmh. Je suis née durant la fête de Noël.
Oui, ouais. Votre vie offerte au Christ, c'est vraiment une dimension importante pour vous. Hein.
Ah oui, oui, oui. Et je veux dire que dès la naissance, ça en montre le sens. Mmh. Il y a aussi un petit clin d'œil, c'est que j'ai été baptisée dans l'église dans laquelle le père Damien de Veuster a connu son appel. Mais pour moi, ce n'est pas... anodin. Mmh,
mmh. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre enfance? Une enfance déjà marquée par la foi, par d'autres choses sans doute aussi.
Oui, alors je suis née dans une famille clairement chrétienne, pratiquante. Donc je suis la plus jeune d'une famille de 3 filles. À la grande tristesse de ma grand-mère paternelle qui espérait la naissance d'un petit Jean, et c'était moi. Donc, c'est vrai que j'ai le sentiment d'un peu terminer la famille parce que je suis la plus jeune de tous les Cantino de cette branche-là. Ouais. Et une enfance tout à fait heureuse, saine, il n'y a pas eu de soucis. J'ai toujours adoré, par exemple, les animaux. Donc, de mon enfance à Braine-le-Comte, je me souviens surtout dans la maison du jardin. Parce que le jardin, eh bien, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait le cochon d'Inde, il y avait la tortue. Et donc, pour moi, c'était un peu l'enfance. Et puis après, nous sommes venus à Bruxelles. Mmh. Et c'était vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai eu une belle enfance. Y a pas... Vraiment, j'ai eu une enfance familiale... simple, heureuse et bien entourée.
Vos parents travaillaient ?
Donc, mon père était chimiste. Il travaillait pour l'Union Chimique Belge. Et ce qui expliquait d'ailleurs qu'on habitait à Braine-le-Comte parce que c'était sur la ligne de chemin de fer entre Avray, où il travaillait au départ, et Drogenbos, où il a terminé sa carrière. Et ainsi, il pouvait aller d'un bureau à l'autre. Et alors, maman était infirmière. Mais à l'époque, les femmes infirmières... à partir du moment où elles étaient enceintes, devaient arrêter. Et donc, elle a arrêté à la naissance de ma sœur aînée, mais elle travaillait, elle était infirmière sociale à UCB. Donc, c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés à l'Union Chimique Belge. Donc, cette dimension aussi de maman, justement, d'infirmière sociale, est quand même une dimension qui a toujours été importante dans la famille. Le service aux autres et le regard sur les autres a toujours été très important.
Vous quittez le Brabant wallon pour aller vers Bruxelles. Hein,
le Hainaut.
Pardon,
vous allez
effectivement,
avoir des soucis si les gens de Braine-le-Comte pensent qu'on est en Brabant wallon.
Pardon.
Je veux bien que c'est la limite, mais donc on a quitté le Hainaut pour aller... Mes parents sont tous les deux du Hainaut, ouais, mais oui. Donc on est allé de Braine-le-Comte à Watermael-Boitsfort, donc... Ouais. À Bruxelles, donc.
Oui.
Et là, Watermael-Boitsfort, c'était un gros village, on va dire, hein, puisque c'était à l'orée de la forêt de Soignes, donc c'est très vert. C'était ma paroisse, c'était Saint-Clément à Watermael. C'était la plus ancienne, c'est la plus ancienne église de Bruxelles, église romane du Xe siècle. Et donc, je vais dire que moi, toute mon enfance, elle est là, quoi. Mmh, donc, dans la petite école paroissiale et dans l'église paroissiale.
Est-ce que justement, vous avez des souvenirs liés à la vie paroissiale? Vous alliez à la messe le dimanche, d'autres jours peut-être aussi. Vous aviez des liens particuliers avec un curé? Est-ce que vous vous sentiez membre d'une véritable communauté?
Clairement, ça, évidemment, à l'époque, ça faisait sans doute plus partie de la vie, on va dire, sociale aussi. Les deux étaient plus liés sans doute qu'aujourd'hui. Mais malgré tout, bon, j'étais à l'école paroissiale et ça avait tout son sens. Le vicaire venait tous les samedis. Nous allions à l'école encore le samedi matin. Tous les samedis, c'était le vicaire qui venait nous donner nos bulletins. Donc, nous avions des bulletins toutes les semaines à l'époque. Et donc, par définition, on avait un lien avec la paroisse. Mes parents, on ne discutait pas. On allait à la messe le dimanche. Là, ce n'était même pas une question. On allait à la messe le dimanche. Mes parents étaient très impliqués dans la vie paroissiale. Donc, juste après Vatican II, quand la messe a été dite en français face à l'Assemblée, mes parents étaient très actifs là. Et donc, ça a été le début des lecteurs. Eh bien, il y avait une équipe de lecteurs à Saint-Clément. Papa en faisait partie. Et je me souviens qu'à tour de rôle, toutes les semaines, il y avait la réunion de l'équipe de lecteurs, et ils venaient une fois sur cinq ou six à la maison et ils discutaient des paroles du dimanche suivant. Enfin bon, il y avait une activité autour de ça, ce renouveau liturgique. J'étais haute comme trois pommes, mais je m'en souviens.
Ah oui.
Et c'était très fort.
L'élan post-concile.
Ah oui, c'est vraiment... Et c'était un élan. Moi, mes parents, mais ils étaient heureux comme tout. Je me souviens que c'était vraiment un vrai bonheur pour eux. Ils étaient très impliqués. Moi, j'avais un grand-oncle... Enfin, non, c'était un cousin de ma grand-mère. On disait oncle, mais c'est un cousin de ma grand-mère qui était moine à Maretsu. Maretsu, c'était vraiment le berceau, on va dire, de la liturgie nouvelle. Et quand il venait à la maison, mais c'était des discussions pas possibles autour de cela, et c'était fabuleux. C'était un élan. Et alors, je me souviens qu'il y a eu, donc, très vite après le Concile Vatican II, il y a eu les messes le dimanche soir. Et donc, papa était lecteur le dimanche soir, mais quoi qu'il arrive, pour rien au monde, on aurait raté la messe du dimanche soir. Il ne se serait pas fait remplacer, on n'aurait pas été le dimanche matin à la messe pour faire autre chose le dimanche après-midi, non. La messe était le rendez-vous et il n'était pas question d'avoir le moindre prétexte pour ne pas y aller. Donc, quand on allait chez mes grands-parents à Frameries, donc au-delà de Mons, à l'époque, il n'y avait pas d'autoroute, donc on mettait un temps fou pour y arriver.
Mais il fallait être rentré pour la messe.
Il fallait être rentré pour la messe. Ouais, donc, ouais. Puis, on écourtait le goûter ou on ne faisait pas le goûter, mais on rentrait. Quoi. Et c'était tout comme ça, tout tournait. La messe, la célébration faisait partie de la vie de famille. Et je lui ai dit que pour nous, ça faisait partie de notre vie. Papa faisait partie de la chorale dès le départ. Il avait une voix extraordinaire. Et donc, le premier jour, on est arrivé à Watermael le samedi. Le dimanche, il y avait une procession dans les rues de Watermael. Et donc, tous les gens devant leur maison faisaient un reliquaire, enfin un petit autel, mettaient des fleurs. Bon, mes parents qui avaient déménagé la veille n'avaient sans doute pas eu le temps de faire grand-chose devant la maison, mais on était tous devant la maison. La procession est passée, donc papa chantait les chants en même temps. Immédiatement, le chef de chorale s'est arrêté, il a dit « Venez dans la chorale ». Et donc, papa était engagé dans la chorale. Il n'y avait pas 24 heures que nous étions en Watermael. Et c'était parti, quoi. Et donc... Et toute notre vie a tourné avec la paroisse, dans la paroisse.
Une question que j'aimais à poser, c'est finalement, qu'est-ce qui fait que vous-même, à un moment, vous devenez chrétienne? Il y a évidemment plein d'éléments qui sont là. On a entendu ce terreau très, très favorable, très, très fertile. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, et peut-être aussi pendant, après l'adolescence, vous choisissez véritablement que ça va être votre vie à vous? Est-ce que vous parvenez à définir? C'est la famille, c'est une rencontre, c'est un lieu, c'est un moment.
Alors, il y a plusieurs éléments. Le terreau familial est certainement très actif là-dedans, mais au moment de l'adolescence, il y a bien une première chose que l'on rejette, c'est bien ce que les parents nous ont toujours invités à faire. Mais moi, j'ai eu un peu... Alors là, pour moi, j'appelle ça un appel. C'est sans doute exagéré. Et en même temps, ça résonne en moi. J'étais une enfant et une jeune... hyper, mais alors là, presque maladivement timide. Et donc, moi, devoir aller devant la classe pour faire un exposé, j'en étais physiquement malade. J'étais en quatrième latine, donc aujourd'hui, c'est la troisième secondaire. quand tout à coup on a eu un prêtre qui ne m'avait jamais vu, je ne l'avais jamais rencontré, il est arrivé en classe parce que c'était lui qui allait animer la retraite de la classe, comme c'était habituel à l'époque, on avait une retraite par an en classe, et il est arrivé, et je me souviens qu'il a dit, eh bien, le thème de notre retraite, ça va être pasteur. Bon, ben, très bien, moi j'étais dans la classe tout à fait anonyme à mon bureau. Et il a dit, mais j'aurais besoin de 3 ou 4 parmi vous pour animer des petits groupes, parce que je veux faire des petits groupes. Et il me montre, il dit, toi tu seras la responsable du groupe, c'est toi qui vas animer le groupe. Moi je serais passée sous mon bureau, là c'était... Mais alors du coup, comme bon, à l'époque on ne discutait pas avec un prof, là, ou enfin avec quelqu'un qui entrait dans la classe, donc bon, il m'avait dit que je devais le faire. Et alors je me suis passionnée, j'ai préparé cette... retraite avec tout ce que je pouvais faire dans le groupe et tout. J'ai travaillé les textes. Enfin, c'était assez étonnant parce que je n'avais jamais fait ça. Et je dis que pour moi, c'est ça qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai perdu à ce moment-là toute timidité. Enfin, je reste timide, mais je n'ai plus de problème pour parler en public. Je n'ai plus de problème pour... Et c'est ça qui a été l'appel. Et du coup, je crois que j'ai associé à la fois cette liberté qu'il m'a donnée, cette confiance qu'il m'a faite, et le reste de mon parcours chrétien. Mmh. Il y a eu évidemment aussi, à ma paroisse, le curé, quand j'avais 17 ans, quelque chose comme ça, qui m'a demandé d'être animatrice, on va dire, de la pastorale des jeunes. Chez nous, ça s'appelait Clin d'œil. Et puis après, je suis devenue animatrice des animateurs. Et je crois que ça aussi, ça m'a permis d'un peu, alors, développer une foi personnelle, un engagement personnel. Bien sûr.
Oui, des appels, hein. Il y a des appels à prendre des responsabilités qui vont toucher votre personnalité, mais donc aussi votre foi. Les deux sont liés,
mmh. Clairement. Là, j'ai vraiment, et j'ai eu un troisième appel qui pour moi a été fondateur, enfin, vraiment par rapport à l'enseignement. Je voulais évidemment être enseignante, c'est pour ça que j'étais allée à Lumen Vitae pour faire les études, mais à l'issue de ma première année, en fin de vacances, j'avais été à un camp prière à Maretsu, et le soir, le dernier soir, on était appelé à invoquer l'Esprit, on avait eu le texte sur tous les dons de l'Esprit, et dire quel don on sentait, dont on était porteur, et prier à ça. Et moi, je me dis, mon Dieu, je ne ressentais aucun de ces dons-là, et sûrement pas celui d'enseigner. Je me dis, mais moi, je suis partie pour faire des études d'enseignement, c'est pas possible, je suis occupée à me tromper. Et donc, j'étais, on était, je crois, le 29 août, quelque chose comme ça, alors on était en fin de vacances, et je me dis, mais je crois que je suis occupée à faire fausse route. Et donc, moi, je n'ai rien dit par rapport aux autres, mais dans le cœur, j'ai dit, Seigneur, tu dois me donner un signe, parce que là, moi, maintenant, je suis paumée, je ne sais pas ce que je dois faire. Et le lendemain, je suis arrivée chez moi, téléphone sonne, et un directeur d'école qui dit, voilà, j'ai appris que vous faisiez des études pour être professeur de religion. Ça fait un an que nous n'avons plus de professeur de religion. Je suis directeur d'une école d'enfants sourds et malentendants. Voilà, je veux vous rencontrer. Et alors moi, je me suis dit, je viens de dire que je n'avais pas la parole, je ne savais pas enseigner, et je dois aller vers des sourds et malentendants. Je me suis dit, si ça, c'est pas une réponse à ma demande. Mmh, mmh. Et donc, j'y suis allée, j'ai été engagée, j'ai commencé par lui dire, mais c'est embêtant, je pars en vacances demain. C'est pas grave, je vous engage pour le jour où vous revenez. Donc moi, j'ai commencé ma carrière un 22 septembre parce que je revenais de vacances. J'ai commencé ma carrière par des vacances.
On reviendra dans la suite de cette émission sur justement l'importance des cours de religion, l'importance de la liturgie aussi. Mais dernière question dans cette première partie. Vous avez 66 ans, on l'a dit. C'est pas tellement, Brigitte Cantillo. Mais pourtant, le monde dont vous nous parlez, on a à certains égards le sentiment que c'est un monde qui est complètement dépassé déjà, à beaucoup d'égards. Ça vous frappe aussi la rapidité, l'accélération de ces changements, et notamment sur la place que l'Église n'occupe plus tout à fait dans la société d'aujourd'hui?
Oui, alors à la fois il y a une accélération terrible, et c'est même un peu effrayant, parce qu'on se dit, mais est-ce que ça va pouvoir encore accélérer comme ça? Enfin, où va-t-on? Et en même temps, je me dis, mais finalement, est-ce que ça a tant accéléré? Je crois que oui, sans doute dans notre pays, sans doute que dans notre petite sphère, il y a eu cette accélération. Je ne suis pas certaine que ce soit vrai partout. Et je me dis, mais est-ce que c'est pas finalement dans la nature? Dans la nature, ben, vous avez l'impression qu'il y a une plante qui pousse pas, qui pousse pas, qui pousse pas, et puis tout à coup, ploups, vous avez un arbre devant vous, et cet arbre-là, il va être là pour longtemps. Donc, cette accélération, je ne la vois pas d'une manière négative. Il y avait quand même beaucoup de prémices et beaucoup de bonnes choses qui y ont été implantées, et puis il y a beaucoup de choses qui ont été supprimées, et c'est pas plus mal. Parce que, oui, je dis, tout était lié. C'était presque sociologique d'aller à l'église. Le jour où les personnes en ont pris la mesure, ben, ils se sont soit engagés, soit désengagés. Est-ce négatif? Finalement, je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y a eu, il y a eu des changements. Je ne suis pas certaine qu'ils soient si négatifs que cela. Parfois, ça me fait un peu mal au cœur de voir que certains aimeraient revenir à avant Vatican II. Je me dis, on voit qu'ils n'ont pas connu, quoi. Parce que regretter cela, moi, je vois quand même que tous les prêtres, la plupart des prêtres qui ont encore connu Vatican II sont très heureux de l'avoir vécu. Je n'en connais pas beaucoup qui soient équilibrés et qui demandent à revenir à avant. Donc, non, moi, je ne suis pas pessimiste et je ne suis pas négative parce que je crois qu'il y a des beaux fruits partout, mais qu'il y a des choses à défendre, clairement.
Merci, Brigitte Cantino.
Toi qui gouvernes ma vie quand je m'y attends le moins, toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin. Je t'abandonne mes pensées, tous mes silences, pour que tu puisses enfin parler. Je t'abandonne mes désirs, mes impatiences, pour te laisser tout transformer. Si tu prends le gouvernail, je dois m'attendre à tout. Dans l'ouragan des retrouvailles, tu me fais vivre vent debout. Toi qui gouvernes ma vie quand je m'y attends le moins, toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin. Tu m'apprivoises à petit feu depuis l'enfance, et j'ai fini par t'écouter. Tu m'apprivoises dans le sel de la souffrance, où j'ai appris à te nommer. Quand tu prends le gouvernail, la vie me fait moins peur. Tu viens abattre les murailles autour des portes de mon cœur. Toi qui gouvernes ma vie quand je m'y attends le moins, toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin. Moi je me prive certains jours de ta tendresse, toi tu m'attends sans te lasser. Moi je me prive d'avancer vers ta sagesse, tu tends les bras pour me porter. Quand tu prends le gouvernail, mon cœur est plein de toi, et mes paroles en bataille se font plus claires dans ma voix. Toi qui gouvernes ma vie quand je m'y attends le moins, toi qui gouvernes ma vie, passager clandestin, passager clandestin.
Nous sommes toujours dans plein feu aujourd'hui sur Brigitte Cantino. Brigitte Cantino, on vient d'écouter « Toi qui gouverne ma vie », c'est Joachim Simas. « Toi qui gouverne ma vie », c'est Dieu qui gouverne votre vie, Brigitte.
Oui, ce chant me touche beaucoup parce que c'est un chant un peu testament que Jo, qui n'est pas décédé, hein, que Jo a écrit... Et vraiment, cela me touche parce que c'est vraiment montrer la trace de Dieu à travers toute la vie, à tous les moments de la vie. Et il dit, ben, par moments, c'est toi qui tiens le gouvernail, et, parce que moi, je ne peux pas. Quoi, hein, donc, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas acteur de sa vie. Dieu tient le gouvernail au moment où nous, on n'est plus en capacité de le tenir, mais on est invité à... tenir le gouvernail, même si c'est lui qui donne
oui.
la perspective.
Alors, un des caps que vous allez suivre, c'est celui des cours de religion. Hein. D'où vient ce désir à la fois de transmettre de l'éducation, du monde de l'école, et puis spécifiquement de donner cours de religion?
Je ne suis pas certaine d'avoir eu une vocation d'enseignante dès le départ, même si ma maman me voyait bien institutrice après coup. J'avoue qu'elle n'avait pas tort, j'aurais bien aimé être institutrice, mais à ce moment-là, il n'était pas question pour moi d'être institutrice. Et donc, par contre, les trois dernières années, alors que j'étais dans une école catholique, j'avais un prêtre comme prof de religion, j'étais désespérée de ce cours, en me disant, mais c'est pas possible d'en faire quelque chose d'aussi plat et d'aussi peu intéressant. Oui, l'homme était gentil, je ne dis pas. Mais j'ai dit, ah non, pire que ça, je ne ferai pas. Et donc, je crois que j'ai eu une vocation par la négative.
Il n'y avait pas trop de pression, ça ne pouvait pas être moins bien.
Moins bien que ça, je crois que ce n'était pas possible. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Je trouvais que cette transmission, il fallait la faire dans la lumière, dans le bonheur, dans quelque chose de positif. J'ai eu un très bon prof de religion en 5e latine, et je crois que c'est celle que je peux sauver de toute la session que j'ai eue. Mais je trouvais que c'était dommage, quoi, d'avoir une telle richesse, parce que le cours de religion, c'est vraiment le cours qui s'ouvre sur tout. Quand vous donnez, alors, c'est vrai, c'est souvent ce qui déroute les personnes qui doivent donner le cours de religion. Je disais, mais les enfants nous posent des questions, mais surtout, et nous envoient dans des directions complètement différentes. J'avais un collègue qui me disait, mais toi, tu commences ton cours avec un sujet et tu le termines avec tout autre chose. Mais je dis oui, parce que les enfants ou les jeunes ont embarqué sur autre chose. Et si c'est ça qui les intéresse à ce moment-là, c'est ça qui doit être travaillé. Ce n'est pas comme un cours de maths où on a besoin d'avoir une donnée pour pouvoir continuer la suite. Moi, on peut prendre tous les sujets. Ce sera toujours Dieu qui sera au centre.
C'est quoi un bon cours de religion? Est-ce qu'il y a moyen de définir ça?
Alors, un bon cours de religion, je vais dire que c'est déjà un cours qui est à l'écoute des élèves et donc qui permet aux élèves de s'exprimer. Mais de s'exprimer dans la vérité, pas simplement pour passer le temps. Et aussi qui donne aux élèves les outils pour entrer dans l'intelligence, je vais dire, de la foi. Dans ce cas-ci, c'est chrétienne, mais c'est vrai pour tous les cours des religions. Et donc, et je crois que ça, on doit leur donner les outils. Donc, par exemple, travailler les textes bibliques dans leur grande diversité, avec leurs différentes portes d'entrée dans la lecture. Je crains souvent ce qu'il manque dans beaucoup de cours de religion, c'est de travailler cette intelligence du texte et de ne pas prendre le texte pour quelle est la morale de l'histoire. Quoi.
Donc encore aujourd'hui, on ne va pas suffisamment loin dans l'esprit alors, critique, dans l'intelligence, dans l'analyse, dans la
alors,
compréhension
de nouveau,
du texte.
Ça, c'est évidemment la différence entre le programme et ce que les enseignants qui essayent de faire de leur mieux n'ont pas toujours les outils pour le faire. Le programme invite, et déjà les anciens programmes, travailler cette intelligence du texte, de la liturgie, de tout, enfin, de toutes les dimensions de la connaissance religieuse. Malheureusement, certains enseignants n'ont pas accès à ces outils parce qu'ils n'ont pas eu de formation spécifique pour les cours de religion. Je ne parle pas de ceux qui donnent cours de religion toute la semaine. Je parle de ceux, les titulaires de classe, par exemple, donnant la religion dans leur cours, dans leur classe, et qui n'ont pas forcément eu la formation. Donc ça, certains ne travaillent pas cela. Ou certains, trouve que c'est trop compliqué, donc un peu laisse tomber mm-hmm. cours de religion. Donc là, ça c'est le côté qui me fait mal. Parce que sinon, donner le cours de religion, c'est un cadeau et il y a beaucoup de profs qui en font vraiment des merveilles. Aujourd'hui, pas il y a 20 ans ou 50 ans, c'est encore vrai aujourd'hui. Quand parfois certaines personnes me disent « mais c'est fini le cours de religion », mais ce n'est pas vrai.
Non.
C'est loin d'être vrai. Moi, ce qui me fait plaisir, à vrai dire, c'est que, on va dire, au sens large, le politique avait espéré la mort du cours de religion en supprimant une heure de cours dans les écoles officielles. Et aujourd'hui, les parents inscrivent toujours autant leurs enfants dans les cours des religions, donc je ne défends pas que la religion catholique, les cours des religions et le cours de morale. Mmh. Donc là, pour le coup, tout le politique est très étonné de cela et avait espéré la mort. Et la mort est loin d'être là. Au contraire, il y a des profs de religion qui avaient abandonné le cours ben, pour sauver leur carrière et donner le cours de philosophie et citoyenneté, et qui aujourd'hui sont revenus à donner le cours de religion en disant non, maintenant que je me rends compte, je continue. Je crois que c'est important de donner, en effet, mais de donner un bon cours de religion. C'est vrai que si c'est simplement pour faire des bondieuseries, c'est pas la peine. Là, pour le coup, ça...
Il faut croire en Dieu pour être un bon prof de religion ?
Alors, légalement, non. Techniquement, si quelqu'un est honnête dans sa posture, je vais dire non. Mais pratiquement...
C'est quand même compliqué.
C'est quand même compliqué. Disons qu'il y a une différence entre être quelqu'un qui est en questionnement par rapport à sa foi, et je crois qu'il va donner un très bon cours de religion, quelqu'un qui clairement se définit comme athée, ça va être quand même très compliqué, sauf s'il a une très bonne base de connaissances, s'il connaît bien les textes bibliques, s'il connaît bien et qu'il est honnête. Moi, je crois qu'il faut y avoir une honnêteté intellectuelle avant tout pour donner un bon cours de religion. Donc, par exemple, je sais que ce que je dis n'est pas légal, mais je le dis quand même, c'est que j'ai vu des personnes qui donnaient le cours de religion catholique, donc souvent des titulaires donnant cours dans leur classe, qui sont musulmanes et qui donnent des cours de religion catholique fabuleux. Parce que justement, ils sont honnêtes. Mmh. Les enfants savent c'est souvent des femmes, qu'elles sont musulmanes, mais elles travaillent clairement le texte évangélique. Elles donnent ça. On ne demande pas aux profs de religion de dire ce que eux, comment eux croient et ce qu'ils pensent.
Non, le témoignage a sa place quand même un peu ou pas du tout finalement.
Le témoignage n'a pas de place en direct dans le cours de religion. On ne le demande pas. Il n'a pas, et il est parfois même malvenu, parce que du coup, ça a l'air de dire ben, j'enseigne ce que je crois, point. Non, ici, tu dois enseigner ce que l'Église croit, ce que la parole donner accès aux textes bibliques, aux élèves avec les outils pour l'analyser. Donc, ce n'est pas la foi du prof qui est enseignée, pas du tout. Ce n'est pas son credo qu'il enseigne. Mais s'il n'est pas du tout croyant, je crois que c'est difficile de permettre d'entrer vraiment. Mais il y en a qui le font très bien. Mm-hmm, qui le font très bien. Donc, ce n'est pas forcément dissonant. Non. Ça doit être parfois sans doute plus difficile parce qu'on doit quand même parfois être sans doute mal à l'aise parce que, par définition, les enfants nous renvoient tout le temps à des questions. Alors, même si on ne doit pas répondre à leurs questions, on doit les guider vers les outils qui leur permettent de trouver des réponses. Si on n'est pas un peu dans la foi, dans l'aujourd'hui de l'Église, je ne suis pas sûre qu'on a toujours les bons outils au bon moment. Quoi. Mais tout est possible. Ce n'est pas demandé, en tout cas. On ne demande pas que les gens aient la foi pour donner le cours de religion.
Brigitte Cantino, vous avez une longue expérience, puisque pendant 21 ans, vous avez enseigné la religion. Et pendant 21 ans aussi, vous avez été inspectrice des cours de religion. Et puis aujourd'hui, vous restez tout à fait engagée dans ce monde, puisque vous collaborez à la refonte des programmes, des cours de religion, des programmes qui ont beaucoup évolué. On dit souvent qu'aujourd'hui, le cours de religion, ce n'est plus du tout le catéchisme. Ce n'est pas la même chose. Quels sont les différents, justement, entre les deux ? Parce que la catéchèse elle-même a aussi évolué.
Alors, tout a évolué, mais nous évoluons tous et nous évoluons à tous les niveaux. On ne peut pas dire, nous ne sommes plus personne n'est comme il y a 20 ans. Quoi. Par définition, nous avons tous grandi, vieilli. Mais tout a changé, le monde a changé autour de nous. Donc, c'est logique que tout évolue. Alors, que le cours de religion ne soit pas de la catéchèse, ça, il y a très longtemps. Et là, je défends l'affaire parce que souvent, on me dit « Ah oui, maintenant, dans le nouveau programme, c'est plus de la catéchèse. » Là, il y a très longtemps. En effet, j'ai donné cours à partir d'il y a 42 ans, je ne donnais déjà plus de catéchèse. Donc là, il y a très longtemps que ce n'est plus de la catéchèse. Que ce n'est plus le petit catéchisme, c'est depuis 1965. Donc, ce n'est pas compliqué non plus. Ou 67, je ne suis plus certaine. Mais enfin, c'est après Vatican II que ça a été terminé, le petit catéchisme dans les écoles. Donc là, vraiment, il y a longtemps que ce n'est plus de la catéchèse. Ce qui est nouveau dans le nouveau programme de religion, c'est qu'il y a une base de données qui part beaucoup plus des questions des enfants. Nous avons toujours travaillé à partir des questions des enfants, mais ici, c'est vraiment l'ADN du nouveau programme, c'est on part des questions des enfants et des questionnements des enfants, qui peuvent évidemment être induits par des documents qu'ils ont sous les yeux, mais c'est vraiment toujours les questions des enfants qui vont être premières. On a développé aussi dans le programme la connaissance des autres religions, parce qu'avant, ça ne faisait pas partie du programme de religion. Donc, on en parlait évidemment, mais ça ne faisait pas partie du programme. Ainsi que toutes les dimensions liées à l'art. La dimension de l'art prend vraiment beaucoup de place dans le programme aujourd'hui. Et alors, il y a, on va dire, des questions plus liées à la relecture personnelle de la religion dans notre vie. Mais ce n'est pas une relecture de foi. C'est une relecture, c'est qu'est-ce que je ne connaissais pas ou qu'est-ce qui n'avait pas d'influence sur moi en début de cours et qu'il a aujourd'hui. Quelles sont les questions qui me viennent maintenant en fin de parcours. Donc, une relecture du parcours. Donc, apprendre aux élèves à relire un parcours de vie, de connaissances. Ça peut devenir un parcours de foi, mais on ne vérifie pas le parcours de foi de l'enfant, évidemment. Mais donc ça, maintenant, ça fait partie du programme. Ça n'y était pas anciennement. Mais on a toujours eu de très beaux programmes de religion. Et c'est pour ça aussi que j'ai accepté avec joie d'y travailler, parce que je crois que c'est un service à donner aux futurs professeurs de religion, mais c'est un service pour moi à la société que de donner les outils nécessaires. Et je trouve que ça fait partie de la transmission. J'ai reçu, moi, donc j'ai vécu finalement en tant qu'enseignante, deux programmes, beaucoup de programmations différentes, mais deux programmes. Je cède ma place en donnant un nouveau programme au suivant. Quoi. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de beau. Et ça, je crois que c'est une des forces de l'enseignement. C'est qu'on connaît nos prédécesseurs, par définition, puisque nous avons tous été élèves, et nous connaissons nos successeurs parce que nous les voyons venir petit à petit comme collègues. Je crois que ça, c'est aussi quelque chose de beau dans le métier. Et alors, évidemment, comme prof de religion, on se connaît tous entre nous. Donc, il y a quelque chose, il y a une dimension quand même aussi d'église là-dedans.
Vous évoquiez aussi tout à l'heure les menaces qui pèsent sur ce cours de religion. Imaginons que vous auriez en face de vous un homme politique très, très opposé aux cours de religion, et vous avez une minute pour le convaincre de l'importance de maintenir ces cours de religion. Que lui diriez-vous, Brigitte Cantineau ?
Oh là là, en une minute, là, ça va être compliqué de défendre cela. La seule chose, c'est que je crois que c'est un vrai service au monde que de permettre aux personnes de... Je parlais tout à l'heure des outils pour lire les textes bibliques, mais je vais dire de leur donner des outils pour appréhender les différentes questions de la vie sans y être directement confronté. Moi, je trouve que c'est un des bonheurs dans les textes bibliques, c'est que finalement, vous avez toutes les situations de vie qui sont racontées de toutes les manières, qu'il y a toujours une réponse, on va dire dans le langage d'aujourd'hui, une réponse positive et de bien-être qui est donné dans les pires situations, qui a toujours un avenir qui est donné partout. Et que je crois que aider les enfants, les jeunes, à grandir en leur donnant cette pensée, et c'est plus qu'une pensée, leur donner un souffle qui est un souffle d'avenir, mais positif. Mm-hmm. Parce que c'est une des craintes de ce monde-ci, et je crois qu'on avait moins quand j'étais enfant. Tout à l'heure, vous parliez de la différence entre mon enfance et aujourd'hui. C'est qu'il y avait tout autant de menaces à l'époque. On ne rigolait pas pour tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un défaitisme, une tristesse qui me, là pour le coup, qui m'étonne et qui me fait peur parce que, franchement, quand on regarde clairement la situation de notre pays par rapport aux trois quarts du monde, je pense que ce n'est pas nous qui devons être les plus pessimistes. Et donc, je crois que donner aux jeunes d'aujourd'hui des outils d'optimisme, eh bien, c'est déjà quelque chose. Et puis, c'est aussi, du coup, une manière de permettre à tous les jeunes des différentes religions de travailler à partir d'une culture que peut-être, oui, leurs parents leur ont ramené, mais d'une culture objective qui existe, et on leur donne les outils d'aujourd'hui pour les travailler. Mmh. Et un regard aussi, ça c'est le propre du cours de religion, c'est que justement ce n'est pas un cours de foi, c'est bien un regard à distance, oui, mais où on travaille. Et donc c'est un regard objectif et qui est aussi contrôlé. Mmh. Parce que c'est ça le problème, si on renvoie maintenant tous les jeunes uniquement dans leur lieu
d'information
religieuse, là pour le coup, on n'a plus de contrôle. Tout peut être dit et il n'y a plus de moment d'objectivité. Mmh. Et le cours de religion donne une objectivité puisque c'est un cours qui n'est pas lié à la foi. Et donc, pour moi, c'est essentiel. Et vraiment, dire oui, mais les enfants sont séparés et tout. Oui, ils sont séparés peut-être pendant 50 minutes pour justement acquérir des données objectives pour pouvoir après mieux se retrouver avec les autres. Et ce qu'on avait proposé avant qu'on nous supprime une heure de cours dans l'enseignement officiel, c'était de dire, mais mettons au programme le fait que, par exemple, toutes les 4 semaines ou toutes les 6 semaines, tous les profs et tous les élèves de toutes les religions doivent se retrouver autour d'un sujet commun. Ça aurait, moi, je trouve que ça aurait été beaucoup mieux plutôt que de supprimer une heure. Mais donc, je défendrai corps et âme le cours de religion.
Ça a duré un peu plus qu'une minute, mais c'était assez convaincant. Merci, Brigitte Cantineau.
J'ai besoin de faire un mec. Je veux traverser la mer et dégager de là. Prends le train, celui qui traverse les plaines. Sur le chemin, j'oublie ma peine. Pense à moi, à nos vies parallèles. C'est le destin, si je rencontre une âme belle. Et toi au coin.
troisième et dernière partie de plein feu aujourd'hui, toujours sur Brigitte Cantineau. Vous êtes à la tête de l'unité pastorale de Louvain-la-Neuve dans le Brabant wallon. Vous êtes liturgiste également, et c'est un petit peu ce volet qu'on va aborder à présent. La liturgie, c'est finalement un mot que chacun définit sans doute plus ou moins à sa sauce. Pour vous, c'est plus qu'un mot, c'est une passion, c'est presque une vocation peut-être. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette passion? Qu'est-ce qui vous émerveille dans la liturgie?
Comme vocation, j'ai un petit clin d'œil à faire, c'est que quand j'étais enfant, je jouais à école, etc., je crois comme tous les enfants l'ont fait, mais je jouais à messe. Évidemment, c'était moi qui disais la messe. Et je confessais mon chien. Donc, c'est pour dire que ça faisait partie de mon ADN.
C'est très moderne, hein?
Donc, j'étais déjà, voilà, une femme qui présidait la liturgie. Non, alors, blague à part, c'est vrai que la liturgie, donc cette expression qui est vraiment commune à tous les chrétiens, pour moi, ça me paraît essentiel. Je trouve que c'est ce qui manque souvent dans nos paroisses, c'est qu'on ne signifie pas suffisamment qu'en liturgie, tout le monde a sa place. Chacun a un rôle. On dit toujours, ah oui, qui est-ce qui célèbre aujourd'hui? Et chaque fois, je lui réponds, ben, c'est toi. Alors évidemment, on me regarde toujours en disant avec quoi elle vient, parce que nous célébrons tous. Quand nous sommes à la messe, tout le monde célèbre. Alors oui, il y a quelqu'un dont ça a été l'appel et qui a été ordonné pour ça, qui va présider la liturgie quand il s'agit d'un sacrement, mais sinon, tout le monde a sa place. Et je crois que si chacun en était vraiment conscient, on aurait sans doute des liturgies encore plus belles que celles que l'on peut avoir. Mmh. Parce que je pense qu'ici, ça c'est sans doute venu de l'ancienne liturgie où on venait assister à la messe. Et ça, c'est comique. Je ne comprends pas que des gens qui, aujourd'hui, n'ont jamais connu cette ancienne liturgie, où justement, c'est vrai, où c'était le prêtre était tourné par rapport à l'assemblée, disait tout en latin, la plupart des gens ne comprenaient pas. Enfin, c'était accepté, ils assistaient à cela, et ici, on a l'impression qu'on continue dans certaines paroisses le même mode, alors que maintenant, ça fait 60 ans quand même qu'il y a eu Vatican II. Et donc, moi, la liturgie, elle doit respirer, elle doit se dire de toutes les manières, et ça ne doit pas forcément être avec des moyens, d'avoir des grandes chorales ou des grands moyens, mais ça doit être pensé, et ça doit être juste et ajusté. Le mercredi des cendres dans notre paroisse, nous avons simplement ouvert ce temps de carême en brûlant tous les rameaux de l'année précédente devant l'église. C'est tout bête, c'est un geste qui ne demande rien. Il a suffi de demander aux gens de revenir avec leurs rameaux de l'année précédente. On a tout mis dans un feu. Ça a donné une dimension à cet envoi en carême qui était splendide, parce que tout le monde était là dans la nuit, enfin dans la soirée, mais il faisait noir, autour de ce feu, et déjà on pensait aux lueurs de Pâques. Il y a un sens, et donc pouvoir savourer ce sens de la liturgie, pour moi c'est une vraie passion. Parfois, c'est vrai, certains prêtres ont un peu de mal avec cela, alors que ça devrait être leur principale, enfin, une de leurs principales missions. Mais de nouveau, c'est une expression, c'est une manière de dire. Et c'est vrai que c'est un peu comme l'enseignement, on l'a ou on ne l'a pas. Enfin, c'est une passion qui peut être témoignée. Et certains sont de grands orateurs, ils vont faire de magnifiques homélies. Ils ne sont pas des célébrants formidables, et d'autres, c'est le contraire. Et ce n'est pas grave, puisqu'on est en Église et que tout le monde... Et donc, on a toujours accès, à un moment ou l'autre, à une belle liturgie, et tant mieux.
Alors, on sait que la liturgie, c'est aussi quelque chose qui peut être l'objet de conflits, hein, typiquement. Ça fait partie de ces points autour desquels ce qu'on appellera les progressistes et les conservateurs se déchirent parfois assez violemment. Quelle est la marge de manœuvre qu'une communauté ou un prêtre peuvent se donner, d'après vous, par rapport à la liturgie? Est-ce que finalement c'est un cadre assez rigide qu'il s'agit de respecter, ou on peut inventer, innover, changer les textes? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller, d'après vous?
Alors, il y a une très grande créativité possible dans la liturgie dans un certain cadre. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que... Alors ici, je parle des messes dominicales, parce qu'évidemment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez en célébration de la parole, etc. Ça, vous faites ce que vous voulez, puisque ce n'est pas un sacrement et que ça ne rassemble pas l'ensemble. Une messe dominicale, par définition, c'est une assemblée où tout le monde est convoqué, à laquelle tout le monde est convoqué. Et donc là, ça, c'est essentiel d'avoir ça en tête. C'est dire, je ne célèbre pas, moi, suivant mes critères, dans mon confort et dans ma manière de voir, mais je dois offrir à tout qui veut venir participer à cette célébration un cadre pour qu'il puisse célébrer cette Eucharistie, recevoir aujourd'hui la parole de Dieu, le corps et le sang du Christ, et être envoyé dans cet esprit au sein d'une assemblée qui n'est pas une communauté fermée, mais un lieu d'ouverture. Et si déjà on a bien ça en tête, on ne célèbre déjà plus suivant ses propres critères, mais en se disant, il faut que ce soit quelqu'un d'hyper progressiste ou quelqu'un d'hyper traditionnaliste, il doit pouvoir s'y retrouver dans ma célébration. Donc si par exemple, je change le credo pour faire le credo que les jeunes ont écrit pendant leur retraite, eh bien, je vais déjà séparer une partie parce que, par définition, je ne sais pas dire le credo que les jeunes ont inventé, sauf si on me donne le texte. Mais je vais dire le credo de 2-3 personnes, je ne vais pas dire le credo de l'Église. Donc là, c'est peut-être une créativité et du coup, déjà j'exclus une partie des personnes. Tout comme si tout à coup je décide, pour être d'accord avec tous les traditionnalistes, on ne va mettre que des chants en latin. Oui, sauf que je vais éliminer toute une série de personnes. Donc, la liturgie, je vais dire, c'est un peu un repas dominical d'une grande famille. On sait bien que dans sa proche famille, on sait bien ce que chacun aime bien manger, etc. Et on va faire en sorte que tout le monde retrouve les aliments qu'il aime bien. Quand vous invitez toute la famille, c'est-à-dire les cousins, les cousines, etc., vous savez bien qu'il va y avoir des végétariens et qu'il va y avoir ceux qui ne veulent que du steak. Et vous savez que vous allez devoir faire avec tout ça. Vous allez devoir faire un repas qui fait que il ne va pas y en avoir qui vont sortir en claquant la porte. Mmh. Parce que la liturgie, c'est ce bel équilibre pour dire, moi ce que je veux, c'est que tous ceux qui franchissent la porte de l'Église puissent vraiment constituer une assemblée, mais qui n'est pas une assemblée choisie. C'est une assemblée de gens qui sont... Ce qui est commun à tous, c'est qu'ils sont tous appelés par Dieu.
Mais est-ce que le risque, Brigitte Cantino, n'est pas de ne garder que ce plus petit dénominateur commun? Donc on enlève le steak, on enlève le gluten, on enlève les poissons, parce qu'il y aurait toujours des gens à qui ça ne plaira pas. Et finalement, qu'est-ce qui reste? Est-ce qu'il n'y a pas ce manque, ce risque que ce soit un peu fade?
Ou bien on fait le grand barbecue avec un peu de tout.
Avec un peu de tout, alors.
Où tout le monde peut trouver son plat. Et donc, je crois que moi, je serais plutôt d'avis de faire le grand barbecue. Mais donc, où tout le monde peut trouver quelque chose, mais où ce qui va être essentiel, c'est qu'on est dans de bonnes conditions pour d'abord faire assembler. Donc, tout le monde ne soit pas derrière sa colonne, occupé à venir faire sa prière à lui-même, parce que c'est parfois ça, ou en lui-même, mais que... on puisse faire une assemblée qui est à l'écoute de la parole de Dieu, et donc que cette parole soit dite de la meilleure manière qui soit, et que ce soit dit de manière compréhensible, que les homélies disent à la fois la parole de Dieu et l'aujourd'hui de Dieu. On dit toujours que pour faire une bonne homélie, il faut prendre la Bible et le journal. Sans doute qu'en suivant Catobel, on a encore une dimension en plus pour faire une bonne homélie. Mais c'est ça, cette conjonction des deux. Et puis alors, de pouvoir se rassembler dans ce repas eucharistique qui, à la fois, dit ce que le Christ a donné et nourrit pour nous envoyer et ne pas oublier l'envoi. Et l'envoi, il est essentiel dans la célébration, c'est qu'on n'est pas appelé à venir au repas dominical pour se gaver, mais on est appelé à venir prendre l'énergie pour pouvoir, après, témoigner, mmh. et donc pour pouvoir être envoyé. Et donc, je crois que c'est justement pas le plus petit dénominateur commun, je crois que c'est justement le plus grand. que... Mais c'est important de travailler sur tous les points de manière que ces liturgies soient les plus ouvertes possibles, les plus joyeuses possibles, et qu'on ressorte avec la joie au cœur. Mmh, mmh. Ça, c'est aussi un défi pour certaines paroisses.
Oui. Est-ce que vous diriez que la plupart des messes célébrées aujourd'hui en Belgique sont des moments de joie et où la liturgie est suffisamment soignée ?
Alors, j'ai le bonheur d'être, moi, dans une paroisse où c'est ainsi, mais... et donc, il y a pas mal de paroisses où ça se passe, malheureusement... Ce n'est pas vrai partout. Et donc, je crois que là, il est urgent d'aider ces paroisses-là. Aussi que les... Mais il ne faut pas seulement attendre, parce que souvent, j'entends « Oh, mais mon curé, je n'aime pas ses homélies. Mon curé, c'est ceci. Mon curé, c'est cela. » Oui, mais vas-y, quoi. Toi aussi, fais quelque chose dans cette liturgie. Je vais dire que chacun célèbre. Et donc, si... Eh bien, on dit « Moi, je suis prête à réfléchir à la parole pour... peut-être la proclamer le mieux possible, peut-être pour aussi aider le prêtre pour son homélie, pour pouvoir amener des prières, je vais dire la prière universelle, donner, se mettre dans la chorale, où je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, et aider nos prêtres et diacres à célébrer de la manière la plus belle possible la liturgie. Elle dit tout, moi, quand je vois la nuit de Pâques, c'est une merveille. Et pourtant, dans bien des paroisses, on pleure en sortant, quoi. Mais je crois qu'heureusement, il y en a où c'est la pleine lumière qui est donnée, oui. La pleine lumière de Pâques.
Juste, Cantillo, il ne nous reste plus que quelques minutes, mais on l'a dit, vous êtes à la tête de l'unité pastorale de Louvain-la-Neuve, ici en Brabant Wallon. Vous êtes la seule à diriger une unité pastorale dans le Brabant Wallon. Par contre, c'est une femme, Rebecca Halsberge, qui est déléguée épiscopale pour ce vicariat. Votre point de vue sur la place des femmes, oui, c'est bien qu'elles puissent diriger des paroisses, des UP, des doyennés, être prêtre.
Alors, ça c'était une de mes questions d'examen à Lumen Vitae, sur la prêtrise. Pour le reste, oui, que les femmes aient pleinement leur place dans l'Église, j'avoue que je trouve ça tout à fait normal. Je n'ai jamais été en manque parce que j'ai le sentiment qu'on y a toujours été très active. Moi, j'ai toujours eu toute ma place dans l'Église et nous sommes plusieurs dans ce cas-là. C'est vrai que ce n'étaient pas forcément les places les plus représentatives. Personnellement, je n'en ai jamais souffert, mais je crois que c'est urgent que, comme dans tout le reste de la société, les femmes aient leur place. Revendiquer des places n'est pas forcément non plus une bonne idée. J'entendais l'autre jour une interview en disant « Oui, vous avez vu ce qui s'était passé du côté de l'Église anglicane. » Mais oui, parce que je crois que là, ça s'est passé un peu trop en force. Je crois que l'Église catholique prend le temps, c'est pas plus mal, mais en même temps, il est urgent qu'en effet, il y a des places. C'est sûr que pour animer une unité pastorale, un doyenné de ça, il n'y a pas besoin d'être ordonné, quoi que ce soit. C'est même incompréhensible que ça n'ait pas été fait plus tôt. Pourquoi est-ce que ce sont des prêtres qui doivent faire cela? C'est un peu étonnant. J'ai souligné quand dans Dimanche il y a eu un article sur Monseigneur Lanneau, j'ai souligné mon approbation et ma joie parce que Monseigneur Lanneau en 1980, quand lui est devenu évêque auxiliaire de Bruxelles, il a immédiatement pris comme adjointe une femme et un prêtre. Donc ce que Monseigneur Hutsin a fait il y a 12 ans quand il est devenu évêque auxiliaire du Brabant Wallon, mais Monseigneur Lanneau l'avait fait en 1980. Et j'avais l'impression que plus personne n'en parlait. Donc, quand j'ai vu que c'était dans Dimanche, j'ai dit « Ah ben allez, c'est chouette, au moins on repense à cet homme qui était précurseur. Mm-hmm. » Et lui, il mettait très fort les femmes. C'est lui qui a nommé le plus d'assistantes paroissiales, je vais dire, en son temps. Donc, je crois qu'il y a un vrai défi à ce niveau-là. Et c'est avec bonheur que je vois ici que Rebecca est devenue déléguée épiscopale. Je signale quand même aussi qu'avant Rebecca, la précédente déléguée épiscopale qui a été nommée, c'est celle de l'enseignement.
Mmh. Vinciane Pirotte.
Donc, Vinciane Pirotte, exactement. Mmh. Donc, nous avons quand même deux déléguées épiscopales.
Mais leur dernière question, des femmes prêtres.
Femmes prêtres, diacres certainement, ça je crois, oui. Prêtres, je crois que ça va être compliqué pour beaucoup de raisons, en soi. Pourquoi pas, tout à fait d'accord en soi, mais je crois que ça va être une question beaucoup plus compliquée parce que là, on a quand même une histoire derrière nous qui, elle, est très longue. Par contre, ordination d'hommes mariés, clairement. Femme prêtre, tant mieux si ça arrive, je ne crois pas que je le verrai, mais pourquoi pas. Vraiment, ce serait très bien. C'est pas demain la veille, je pense.
Brigitte Cantineau, merci d'avoir été l'invitée de Catobel dans cette émission Plein Feu. Chers auditeurs, merci d'avoir été à nos côtés. Vous pouvez naturellement retrouver cet entretien en podcast sur catobel.be. À très bientôt.